Mathieu Bocoté.
Il représente un segment très important de l'opinion publique.
Richard Martineau.
Tu vis sur quelle planète?
La rencontre.
Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie.
C'est hallucinant.
La rencontre. Bocoté. Martineau.
Alors, Mathieu, c'est demain que Francine Pelletier, l'ancienne chroniqueuse du Devoir, qui a été foutue à la porte, il faut le dire, présente son documentaire sur le mouvement nationaliste québécois qui est, selon elle, rongé par la xénophobie, la haine des femmes musulmanes, la haine des musulmans, l'ethnocentrie, etc., etc. Et aujourd'hui, dans la presse, Yves Boisvert écrit sur ce documentaire-là, qui l'a vu, qui trouve formidable, c'est tout à fait... Il partage parfaitement le diagnostic de Mme Pelletier. Qu'est-ce que tu en penses?
Bon, Francine Pelletier m'avait demandé de participer à ce documentaire.
Oh.
J'ai vu de quelle manière, donc j'avais vu le script, c'est-à-dire voilà le projet auquel elle m'invitait. Ça tenait à peu près dans la formulation suivante. Le nationalisme était ouvert et généreux et progressiste. Désormais, il est dans une forme de régression, il est passif, il est dangereux, il est fermé sur le monde. Voulez-vous, s'il vous plaît, venir à mon dîner de con, vous expliquer, vous êtes le con de service? Bon, alors j'avais dit non parce que j'ai peu d'intérêt pour les dîners de con où je suis invité dans le rôle du con, c'est mon première chose. Ensuite, j'ai pas vu le documentaire de dire, donc je commence à partir de ce que j'ai du plan qui m'a été présenté et des nombreux retours que j'ai eu de gens qui y ont participé et du texte de Boisvert. Je dirais que c'est simplement un peu inculte, en fait. Parce que ces gens-là s'imaginent le nationalisme de la Révolution tranquille comme une espèce de nationalisme évaporé, un nationalisme sans substance, un nationalisme purement territorial, un nationalisme qui n'aurait aucun lien avec la majorité francophone. Puis on a simplement envie de leur dire, lisez un peu avant de vous prononcer sur ces questions-là parce que ça vous échappe. Quand on pense au maître chez nous de 1962, maître chez nous, est-ce que ces gens-là sont capables de comprendre minimalement ce que veut dire la référence au maître chez nous? Est-ce qu'ils comprennent le fait qu'on parle ici de ce qu'on appelait autrefois l'État national des Canadiens français pour le Québec? Quand on parle de René Lévesque en 1980, dit « Je suis déçu, j'ai même pas eu une majorité de francophones », est-ce qu'on comprend que pour lui, la majorité historique francophone était le porteur historique du projet national? Quand on pense au rapport à l'air, qui rappelait, du Parti libéral, en 90, qui rappelle l'importance de la majorité historique francophone, quand on... Ces gens-là ne savent juste pas de quoi ils parlent. Donc là, ils se sont imaginés une espèce de récit enchanté du nationalisme de 60 à 95, qui serait une forme de nationalisme... on pourrait dire presque pré-trudeauiste. Puis après ça, il y a eu le retour au nous. Donc, un, ils savent pas de quoi ils parlent. Deuxièmement, le fait est qu'après 95, le nationalisme après 95 a rompu avec la Révolution tranquille. C'est ça que ces gens-là voient pas. Après 95, on bascule dans une forme de trudeauisme. On bascule dans le nationalisme purement civique qui a aucun rapport avec la culture, qui congédie l'histoire parce qu'on pense qu'elle est exclusive, qui congédie la mémoire parce qu'on pense qu'elle est discriminante. Puis ça va faire une forme de nationalisme sans identité, de souverainisme sans nationalisme, qui va faire en sorte que l'enjeu identitaire va devenir flottant, puis la DQ va s'en emparer. Donc, on va se retrouver avec une espèce de situation où on a l'identité sans le souverainisme d'un côté, puis de l'autre côté, le souverainisme sans l'identité. Et je vois pas de... Et ce qui se passe à partir de 2007-2008, la crise d'accommodement raisonnable, c'est une volonté de se réinscrire dans la continuité de la Révolution tranquille, qui était justement sous le signe d'un nationalisme ancré dans l'histoire, la culture, la mémoire, et dont la loi 101 en 77 avait été le point culminant sur le plan politique. Donc, ils savent tout simplement pas de quoi ils parlent, et pour ce qui est des Yves Boisvert, je sens pas le besoin de commenter exagérément les considérations de ce monsieur. Pour ce qui est de Francine Pelletier, elle ne s'est jamais distinguée par sa puissance conceptuelle, donc c'est un petit milieu qui, en ce moment, est très très, très en colère devant le retour au nous, le retour à l'identité, le retour au nationalisme historique. Ils y voient un nationalisme ethnique. On pourrait polémiquer longtemps avec ce monde-là, mais sur le fond des choses, c'est une espèce de querelle un peu vaine qui repose sur une inculture historique grave.
Mais c'est bourré de mauvaise foi. Par exemple, l'hostilité envers les femmes musulmanes. Je m'excuse, la loi 21 ne touche pas les femmes musulmanes seulement, ne vise pas seulement les femmes musulmanes, c'est toutes les religions. Et j'aimerais rappeler à Mme Pelletier qui, entre parenthèses, faisait un parallèle complètement stupide, crétin et imbécile entre le masque sanitaire et le voile intégral, ferme la parenthèse, j'aimerais lui rappeler à cette dame-là que beaucoup de musulmanes qui se réjouissent de la loi 21, qui l'appuient et qui sont très contents.
C'est fondamental. Dire que c'est une loi contre les femmes musulmanes, c'est absurde. C'est absurde. C'est une loi pour la laïcité, pour exiger que chacun évolue dans les institutions l'action publique selon les codes de la laïcité de la culture commune. Et Mme Pelletier accorde une forme de privilège aux femmes voilées sur des femmes non voilées dans l'islam, comme si une femme vraiment musulmane, c'est une femme voilée. Et elle oublie que quand l'islam s'installe dans le monde occidental, c'est justement pour bénéficier minimalement des avantages du monde occidental, donc d'une société qui place la liberté de penser, la liberté intellectuelle, le refus du communautarisme au cœur de l'espace public. Donc, tout ça est... Je t'avouerai, il y a quelques années, ce débat-là m'aurait passionné parce que on y était. Et puis là, il fallait... Bon. Aujourd'hui, je trouve ça lassant. C'est-à-dire, voir les vétérans du progressisme crépusculaire et les plumes serviles qui le relaient dans les journaux du fédéralisme officiel. Bon, OK, ces gens-là sont... Donc, ils voient de la régression conservatrice partout, ils voient une régression réactionnaire partout. Pour eux, dire l'identité substantielle d'un peuple, c'est discriminatoire. Bon, qu'est-ce qu'on doit dire devant tout ça? Le fait est que le souverainisme tel qu'il nous a... Le souverainisme, lorsqu'il a renié l'identité, eh bien, il s'est, il s'est fracturé historiquement. Puis aujourd'hui... On se retrouve dans une situation où l'idée d'indépendance est à reconstruire parce qu'elle aura sacrifié l'idée de le nationalisme, on dit identitaire aujourd'hui, dans les années 90-2000. Donc tout est à reconstruire. J'ajoute en passant qu'on lise avec un peu de sérieux le nationalisme des années 60 à 95-2000, donc on pourrait dire de Marcel Chappé à Camille Lorrain. Si ces gens-là n'étaient pas des nationalistes identitaires comme aujourd'hui, eh bien, on sait juste plus ce que veulent dire les mots. Ils avaient une définition tellement substantielle de la nation qu'on pourrait dire que c'est une définition qui, aujourd'hui, ferait scandale. Donc, quand on se réclame de Camille Lorrain pour faire le procès du nationalisme identitaire aujourd'hui, j'ai l'impression, encore une fois, qu'on se retrouve d'abord et avant tout devant des incultes, ce qui n'est pas surprenant, par ailleurs, quand on voit qu'il a réalisé le documentaire.
Et autre preuve de la mauvaise foi de ce documentaire que je n'ai pas vu moi non plus, mais bon, on en connaît les thèses. Mais Yves Boisvert en parle aujourd'hui en disant que le mouvement nationaliste est anti-immigration. Attends une minute, dès qu'on dit qu'il faut baisser le seuil d'immigration, comme disait François Legault à juste titre, moins en accueillir pour mieux les accueillir. Est-ce que Mme Pelletier sait que nous devons franciser ces gens-là, que nous sommes une minorité sur le continent américain, que c'est très difficile de franciser ces gens-là et c'est pour ça qu'il faut en recevoir peut-être moins, parce que il faut toujours tenir compte de nos moyens de les intégrer. Je veux dire, un enfant peut comprendre ça.
Oui, mais si ces farceurs-là, faut être sérieux, là. Depuis, si ces gens-là pensent que l'intégration des immigrants, la francisation des immigrants, c'est bien passé depuis 25 ans, je suis curieux de savoir sur quelle planète ils vivent. Je suis curieux de savoir dans quelle ville ils vivent. Dans quelle ville, dis-je, ils vivent. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, 25 ans d'immigration massive ne correspondant pas à nos capacités d'intégration, mais ça fait Montréal qui s'anglicise, Laval qui s'anglicise, les deux rives qui commencent à s'angliciser, et tout ça, là, c'est pas le fruit de fantasmes de néo-nationalistes identitaires, conservateurs, passéistes, alléluia, passe-moi le beurre. Ce n'est pas vrai. Donc, ce sont tous des critiques des fake news, ces gens-là. On aura envie de leur dire, regardez, on va prendre ensemble des livres d'histoire, là, puis on va réfléchir ensemble à l'histoire. Ensuite, vous allez m'expliquer, quand René Lévesque là, baisse les seuils d'immigration après en prenant le pouvoir, quand on a 17 000 immigrants environ au Québec en 1980-81, est-ce que le Québec de René Lévesque est une société fermée à l'immigration et fermée sur le monde? Quand René Lévesque critique la maudite charte de Trudeau, c'est sa formule, est-ce qu'il est contre les droits et libertés ou il est contre une charte qui vient dans les faits vider le Parlement de son pouvoir? Donc, il faudrait tout reprendre à zéro pour être capable de parler avec eux. C'est pour ça que je me dis, voyant cela, il y a une formule en faire et laisser brère. Donc là, c'est une loi. Donc, puis c'est toujours la même méthode, c'est-à-dire, il n'y a même pas de discussion des arguments, ils diabolisent. Madame Pelletier, à ce que j'ai compris, on m'a rapporté, c'est désolé, à Radio-Canada, que je n'ai pas accepté de participer à son documentaire.
Ben voyons.
Mais qu'elle nous explique pourquoi il faudrait qu'on accepte de participer à un truc dans lequel le récit est déjà écrit, la trame de fond est déjà écrite, et on nous demande simplement le rôle du méchant. C'est-à-dire, quand on sait en plus le sort qu'elle avait réservé à Jacques Parizeau dans le documentaire qu'elle lui avait réservé, on a de bonnes raisons de croire qu'il y a quand même des limites à s'offrir, justement, comme cible symbolique dans ce documentaire qui a pour vocation de faire notre procès. Donc, non, pas vraiment. Et puis, on va continuer à faire notre travail. On va continuer de laisser Radio-Canada faire son travail de propagande pour faire passer toute référence à l'identité pour de l'extrême droite, pour de la régression et tout le tralala. On va les laisser continuer à diaboliser, puis nous, on va continuer à travailler.
Écoute, il faut rappeler qu'elle s'est fait virer du devoir. Et récemment, elle était à Mme Pelletier, elle était à l'émission de Penelope McQuaid, puis elle disait que le devoir avait eu des pressions là, énormes là, pour qu'on se débarrasse de Francine Pelletier. Brian Miles a écrit dans le devoir en disant c'est totalement faux. C'est complètement faux. Puis il dit par politesse envers Mme Pelletier, je ne dirai pas pourquoi on l'a viré. Mais n'importe qui a lu ces textes qu'elle a écrits pendant la pandémie, sait fort bien que Mme Pelletier accordait du crédit à certaines théories complotistes. Je suis désolé, là, mais elle voyait toute mesure sanitaire comme une attaque aux droits et libertés. Même à la fin, sa dernière chronique qu'elle a écrite dans Le Devoir, elle parlait de médicaments miracles, puis elle écrivait là-dessus sans jamais citer aucune étude sérieuse, et finalement, ils ont décidé de la virer. Il faut aussi rappeler qu'elle disait ben pourquoi on est contre le masque, le voile intégral, alors que ça fait 2 ans qu'on se cache le visage. C'est pas une grande intellectuelle.
Ça faisait longtemps que j'avais cessé de lire dans le détail Francine Pelletier. Je lisais quand même de ses chroniques touchant des sujets qui étaient les miens. Pour le reste, sa trajectoire intellectuelle était de peu d'intérêt pour moi. Disons ça comme ça. Je n'ai jamais eu l'impression qu'on était devant des figures les plus éclairantes de la pensée post-1960 au Québec. Donc, j'ai vu ce qui lui est arrivé. Moi, bon, comme je dis, ça, c'est des querelles internes au Devoir, qui est un journal qui n'est pas celui dans lequel je me reconnais le plus spontanément. En dernier instant, je vois que Radio-Canada a senti le besoin de porter ça. Donc, Radio-Canada fait un choix éditorial. Alors, je serais curieux, est-ce que Radio-Canada aurait pris un documentaire pour expliquer comment, en se réappropriant le nous à partir de 2007 et en critiquant les accommodements raisonnables et en mettant la laïcité de l'avant, eh bien, le nationalisme québécois est revenu à sa vraie nature et c'est la preuve que c'est un progrès dans l'histoire. Est-ce que Radio-Canada aurait diffusé un truc comme ça?
Ben, non, écoute, mais moi je te le dis, même Télé-Québec n'accepterait pas ça. Essaie de passer un documentaire à Télé-Québec sur l'histoire du nationalisme, à quel point, puis tout ça. Même lui, il ne le prendrait pas.
Ben voilà, donc moi, c'est pour ça que je me désole que les fonds publics servent à financer une forme de propagande d'une femme et plus largement d'un courant de pensée qui assimile à la xénophobie, toute forme de nationalisme qui a un peu de substance et qui rappelle que le nationalisme québécois est ancré dans l'histoire d'une majorité francophone. Bon, ensuite, comme j'ai cru comprendre que ça met de l'avant Mme Louise Arel, bon, j'ai rien contre Louise Arel, c'est une figure parmi d'autres dans l'histoire du Parti québécois, c'est pas la plus inspirante, c'est pas la plus intéressante, ça fait partie de l'histoire, c'est très bien. C'est-à-dire, dans l'histoire, il y a tout. Elle est là, elle fait partie. Donc, ce sont des gens qui, aujourd'hui, se lamentent et puis voient des xénophobes partout. Faut-il s'en surprendre? On voit ça partout en Occident. Et si ces gens-là pensent vraiment que l'intégration des immigrants, la francisation des immigrants se passe bien au Québec depuis 25 ans, ben, qu'ils nous en informent, moi, j'avais pas eu le mémo.
Mais écoute, aujourd'hui, dans Le Devoir, là, c'est les orthophonistes qui disent que la loi 96 est épouvantable parce qu'elle va les empêcher de parler en anglais à leurs patients.
C'est le génocide culturel. Non, regarde, ça faut arrêter. C'est le génocide culturel. Ben, oui. Là, apparemment, ça empêcherait de parler. C'est un espèce de délire. Et puis, je trouve que beaucoup de nos médias légitiment ce délire en ce moment. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend, c'est que dès qu'on décide de prendre au sérieux l'idée du français comme langue officielle, eh bien, c'est vu comme une forme de piétinement du droit de la minorité anglaise. Alors, il faut jamais oublier, la minorité historique anglaise a effectivement tout à fait le droit d'assurer sa reproduction institutionnelle et culturelle. La vocation des nouveaux arrivants, c'est de se franciser. C'est pas de choisir une langue ou l'autre. C'est de se franciser. Et le projet de loi est très généreux. On offre 6 mois aux nouveaux arrivants pour prendre le temps d'apprendre le français. Dans les faits, vu les délais, on pourrait, comme si on est dans tout pays normal, ça pourrait se faire dans la langue nationale immédiatement. Si on va en Allemagne, en Slovénie, en Finlande, en Russie, en Irlande, au Mexique, il y a une langue nationale. Bon. Eh bien, maintenant, il faut que ça fonctionne dans la langue nationale. Nous, on a 6 mois de délai. On est généreux. Bon, mais c'est très bien qu'on soit généreux. On est du bon monde au Québec. Mais là, on présente ça comme une forme de persécution. Parce que fondamentalement, on voudrait que le français demeure optionnel. Ben, moi, je pense pas que le français doit demeurer optionnel. Le français ne doit pas être optionnel. Donc, il faut qu'il soit nécessaire pour fonctionner avec l'État. Pour certains, ça, c'est une loi discriminatoire. Comment dire devant cela? Que dire devant cela? Sinon, ce sont les mêmes procès lassants et pas très intelligents qu'on nous fait depuis longtemps.
Non, mais là, ça nous tire dessus, là, vraiment. Là, Yves Boisvert, il se cache même plus, là, vraiment. Là, il a sorti ses gros canons. Là, il est complètement décomplexé là, de dire là, que...
C'est Yves Boisvert.
Oui, mais bon... OK, parlons d'autre chose. Écoute, qu'est-ce que tu nous présenter demain à CNews, à ton émission?
Alors, je reçois deux jeunes intellectuels. T'sais, c'est toujours un plaisir, quelquefois, de... Donc, dans la deuxième partie de l'émission, je reçois Louise Eliassi et Pierre Valentin. La première a écrit un livre sur la génération woke, de manière assez critique. Et le deuxième a écrit une étude sur le wokisme qui est tout à fait exceptionnelle. Et je reçois les deux, donc, pour leur donner un peu d'écho. Et c'est parce que la question woke vient de ressurgir dans la vie publique en France. Peut-être pour ça, la jeune génération qui s'empare de cela de manière critique, comme quoi nous nous rappellerons que tous les jeunes ne sont pas woke aujourd'hui.
Hey, j'ai très hâte de voir ça et je souligne aux gens, je suis en train de lire, Mathieu, Le Témoin des Tempes, qui est un roman extraordinaire sur un intellectuel qui est soudainement la victime d'une cabale woke contre lui et on salope sa réputation, ses médias sociaux. C'est un roman formidable qu'il faut que tout le monde lise.
Absolument, il faut le lire à tout prix. Et puis tant qu'à faire une suggestion de lecture, j'en envoie une dernière. Le mage du Kremlin de Giulio D'Ampoli, qui propose une réflexion sur la culture politique russe, sur la psychologie politique de Poutine, pour chercher à comprendre ce qui se passe dans la tête de ces gens en ce moment. Quelquefois, un roman fait un meilleur travail que 100 livres de sociologie. Ben, franchement, ce livre-là est exceptionnel. Il faut le lire à tout prix.
Bon, ben super. Quand j'ai fini Le Témoin des Tempes, je m'y mets. Merci beaucoup. Bon week-end, Mathieu.
Au grand plaisir. Bye-bye.